Chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec la semaine des rédactions. Le principe est simple, vous le connaissez, on fait le tour de l'actualité de la semaine avec les moments forts des différentes radios juives, partenaires et amis à Paris, à Marseille, à Jérusalem. Nous allons évoquer avec vous Sandrine Seban, directrice de l'antenne de RCJ. Bonjour Sandrine.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
Les difficultés de s'informer en temps de guerre et l'importance justement de faire le tri.
Exactement, c'est vrai que c'est une situation qu'on connaissait de par évidemment l'avoir vécu pour Israël et la désinformation concernant le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Là, eh bien, c'est autre chose. C'est plus proche de nous géographiquement parlant. Les médias ont évolué, les réseaux sociaux sont en ébullition et pas toujours pour de bonnes choses. Et vous écouterez la réaction du grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui était sur l'antenne de RCJ Midi cette semaine.
On reviendra avec vous, Emmanuel Hadda, sur la tentative de médiation diplomatique de Naftali Bennett dans la crise ukrainienne.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, on en parlera peut-être aussi un petit peu dans l'angle de celui de Sandrine, c'est-à-dire quelle est vraiment la position israélienne par rapport au conflit entre les Russes et les Ukrainiens.
Voilà, alors si on ne vous entend pas très bien, on le précise, c'est que vous êtes quelque part dans le Negev, hein, c'est bien ça hein.
Non, je suis à Lod actuellement, dans la ville de Lod.
Bon, là où ça capte pas très bien. En tout cas, on parlera avec vous donc de cette crise ukrainienne. Et puis plus léger pour terminer, Elsa Charbit à Marseille pour Radio J Marseille. Eh bien, on parlera d'une Joconde numérisée.
En fait, il s'agit d'une exposition immersive, c'est une première mondiale qui a eu à Marseille autour du tableau de la Joconde, parce que le plus vieux tableau du monde qui a plus de 500 ans, peut-être le moins bien regardé, même si c'est le plus visité. Et on a rencontré pour la présentation à la presse le directeur du Grand Palais qui s'appelle Roy Amit et qui est un Israélien. Ah. Et on vous en dit ce qu'il a à nous dire sur le sujet.
Voilà, ça sera donc en fin de cette semaine des rédactions. On démarre avec vous, Sandrine Seban, le grand rabbin de France, s'exprimer sur justement ce besoin de faire le tri dans les informations qui nous parviennent d'Ukraine.
C'est vrai, et le grand rabbin de France qui est chaque mois l'invité de RCJ Midi, on va l'écouter dans un instant. Il est vrai que là, depuis 15 jours que le conflit a démarré, on est tous, alors nous c'est notre quotidien en tant que journaliste, accro aux informations, aux chaînes infos, etc. Mais c'est vrai que eh bien, beaucoup veulent évidemment s'informer et que, en temps de guerre et surtout, j'ai envie de dire, venant de non-démocratie, on va appeler ça comme ça, comme la Russie, il faut bien considérer et bien se rappeler que l'information est aussi une arme de guerre, que les fake news sont une arme de guerre et que, eh bien, on peut être totalement manipulé ou en tout cas, on peut tenter de nous manipuler avec certaines informations. Alors, on a certaines rubriques de nos confrères dans d'autres médias qui démontrent ces fake news. Malheureusement, toutes ne peuvent pas être démontées. Et on le dit souvent sur cette antenne, notamment, c'est vrai en ce qui concernait le conflit israélo-palestinien, nous avons tous, évidemment les journalistes, nos responsabilités. Mais vous aussi, chers auditeurs, qui partagez des informations sur les réseaux sociaux ou qui les envoyez par WhatsApp, vous avez aussi une responsabilité pour essayer de ne pas propager ces fake news. Parce que, évidemment, ça peut être extrêmement dangereux. Et puis, cela peut conduire à des renversements de situations et on n'en prend pas toujours conscience. Alors je vous proposais d'écouter le grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui est toujours très mesuré, à la fois très courageux dans ses positions et qui en même temps eh bien, est revenu là-dessus sur ce problème des fake news.
Je ne veux pas rentrer dans ce débat historique où évidemment je ne peux pas tout cautionner. Mais si vous saviez le nombre de fake news, y compris dans la communauté juive. J'ai reçu par exemple un message affolé, on veut tuer tous les juifs à Zitoumir. J'ai appelé le rabbin, je l'ai appelé.
C'est la question que j'allais vous poser, est-ce que vous êtes en lien avec les rabbins ukrainiens?
Je l'ai appelé, on me dit on veut les tuer, comme on a déjà commencé à tuer des juifs. Je veux bien, un temps de guerre est un temps où plus rien n'est cohérent. Donc il faut vérifier. J'ai vérifié, je vais parler. Il me dit, je lui dis, comment ça se passe avec ton orphelinat? Ah, mais tous les orphelins sont déjà en Israël depuis 4 jours. D'accord, donc le reste... Non, j'ai demandé qu'on enlève ce message, c'est scandaleux, c'est pas vrai. C'est une fake news venant des Russes pour dire que les Ukrainiens sont antisémites. Bon, donc vous voyez, il faut juste avoir un peu de pondération. Je crois, voilà pourquoi moi j'ai demandé à ce que toute l'aide passe par des associations reconnues, le Fonds social qui fédère les choses et qui lui sait où les fonds sont envoyés pour aider tel ou tel groupe humain. Il y a de la Yeled qui a aidé aussi. Enfin, bref, toutes celles et ceux qui aident dans un cadre connu. J'ai déjà vu un article sur les arnaques à la situation des Ukrainiens, pas exclusivement des Juifs ukrainiens, la situation des Ukrainiens, parce que sur Internet, on va lancer des appels, aider l'Ukraine en désastre, en guerre, et ce sont encore une fois des arnaques. Donc, il faut toujours vérifier, et la seule façon de vérifier, c'est de faire confiance aux grandes organisations. Voilà pourquoi, avec le Consistoire, nous avons voulu coordonner tout cela avec le Fonds social.
Voilà, c'est très important ce que dit le Grand Rabbin de France, et effectivement, parce que en dehors des fake news sur le conflit en lui-même, il y a tout ce qui peut se rapporter à l'aide humanitaire. Parfois, les gens sont très très généreux, plein de bonne volonté. On a des messages au Fonds social, il y a des centaines et des centaines de messages tous les jours. Donc, le Fonds social est sur le terrain à la fois pour envoyer des médicaments, en collaboration avec beaucoup d'associations, pardon si j'en oublie certaines, mais il y a l'UEJF, il y a la coopération féminine, il y a le CASIP, il y a l'OPEJ, il y a l'OSE, le Consistoire central, donc les EI, bien évidemment, les VISO, enfin toutes ces associations se sont regroupées sous la bannière avec le Fonds social, qui appelle effectivement à vos dons et qui à la fois envoie de l'aide sur place et qui, en même temps, vous le savez, a aidé au rapatriement de plusieurs dizaines de familles. Certaines sont arrivées la semaine dernière, d'autres arrivent encore ce soir. Et voilà, il va falloir, sur du court et du moyen terme, on n'espère pas un trop long terme, mais il va falloir s'occuper d'elles. Et il y aura un numéro unique, je peux vous le dire, Rudy, qui sera dévoilé probablement aujourd'hui et qui permettra à toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes veines de pouvoir se renseigner sur ce qui est fait de manière très concrète, de manière évidemment totalement légale et de manière totalement sécurisée, à la fois pour ces familles et pour les fonds qui sont donnés.
Oui, garder raison et donc mettre de l'ordre dans ces périodes de troubles, Elsa Charbit.
Oui, absolument. Surtout que vous parlez de moyen terme. Moi, je pense qu'on pourrait s'inscrire dans un terme certainement beaucoup plus long. Ouais. Et c'est qu'il faut absolument que tout le monde se fédère derrière une seule et unique bannière pour éviter, parce que tout le monde appelle, dit moi aussi, je vais accueillir une famille, je vais aller chercher. Non, il faut que les choses soient coordonnées parce que ça peut durer des mois.
Ça peut durer des mois et c'est des métiers. On le dit souvent, Elsa, journaliste, c'est un métier, mais voilà, l'aide humanitaire, l'aide sociale, c'est un métier aussi pour ne pas faire de bêtises. Ces gens, on a pu les voir, sont totalement évidemment traumatisés, apeurés. C'est des familles, ils ont tout perdu ou presque du jour au lendemain. Donc, il y a une manière de pouvoir les prendre en charge au mieux.
Elsa. Ouais. Je suis absolument d'accord avec Sandrine, et on voit bien, c'est souvent de très bonne volonté, mais il faut être organisé. Alors nous ici, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'actions, parce que Marseille étant jumelée avec Odessa, il y a beaucoup de choses qui sont faites à travers la ville, et on va aussi contribuer à ça, c'est tout à fait normal, mais peut-être aussi mieux comprendre ce dont les gens ont besoin. Bien sûr, les accueillir, c'est pas une évidence, et pour ce qui doit partir, il ne faut pas donner n'importe quoi, il ne faut pas envoyer n'importe quoi. Et ça, malheureusement, il faut aussi l'expliquer aux gens.
Exactement, et être sûr que ça arrive bien aux bonnes personnes. Donc, ça se passe. Mmh. Le Fonds social travaille depuis des années avec le réseau des ONG européens OLAM. Donc, dès que ça a démarré, voilà, on savait exactement, finalement, qui était fiable et quel réseau, quelle connexion était fiable.
On va maintenant parler de la voie diplomatique avec vous, Emmanuel Ada, donc depuis Lod, non pas Jérusalem aujourd'hui. Donc Emmanuel Ada, on se souvient tous en début de semaine, le week-end dernier, de ce voyage assez spectaculaire en plein Shabbat de Naftali Bennett, qui est allé rencontrer Vladimir Poutine. Donc une initiative, une tentative de médiation, Israël est rentré dans le jeu.
Israël est rentré dans le jeu, je dirais plutôt qu'Israël est rentré dans la cour des grands, parce que aujourd'hui, effectivement, le ministre est l'un des médiateurs les plus importants dans le cadre de ces négociations, ce qui place vraiment Israël sur un poste international de manière très respectable et très respectée, d'après ce que je lis dans les médias internationaux. Alors, c'est la première fois qu'un premier ministre israélien prend un avion, transgresse Shabbat, alors pour se rendre auprès d'un chef d'État. Et c'était très, très suivi en Israël. Alors, Naftali Bennett s'est retrouvé acteur d'un rôle très important, peut-être pour lequel il n'est pas préparé. En tout cas, aujourd'hui, dans la presse israélienne, on dit de lui qu'il l'assume avec beaucoup de sérieux et beaucoup de pudeur. Il est extrêmement discret, extrêmement pudique sur ses médiations qu'il maintient. Et il fait son boulot très correctement, en tout cas jusqu'à maintenant. Ceci dit, je dois ajouter quand même qu'Israël a une position très particulière dans ce conflit. J'ai eu l'occasion d'en parler déjà sur votre antenne plusieurs fois et je pense que c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'Israël est ami des États-Unis, c'est notre allié principal, mais Israël a également de très bonnes relations avec l'Ukraine et Israël a de très bonnes relations avec la Russie et avec Poutine. Rappelez-vous, ouais, oui. Bibi Netanyahou était très proche de Poutine et Naftali Bennett, vous l'avez vu sur les images, a été très bien reçu par Poutine. D'ailleurs, il est assis côte à côte avec lui, alors que le président français était assis à 10 mètres de lui. Et ils continuent à communiquer ensemble. Pourquoi la Russie est très importante pour nous et pourquoi on ne peut surtout pas se fâcher avec les Russes aujourd'hui, c'est qu'en Syrie, où Israël doit intervenir régulièrement pour attaquer des bases militaires iraniennes, eh bien, nous devons demander l'autorisation des Russes pour le faire. Et les Russes nous l'accordent. Et donc, c'est très important de maintenir cette relation avec les Russes. Nous devons, d'un point de vue israélien, regarder les intérêts d'Israël en priorité, avant toute chose. Donc ça, c'est une chose que je voulais vraiment bien spécifier. Maintenant, vous avez parlé d'aide humanitaire. Alors, effectivement, on a un très gros problème avec les réfugiés ukrainiens. Pourquoi ? C'est un problème qui fait débat public en Israël aujourd'hui, parce que nous avons déjà accueilli 2000 personnes, mais nous devons en accueillir plus de 150 000 et on doit s'organiser pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a une communauté, comme on l'a dit la dernière fois, de 200 000 personnes qui ont droit de bénéficier de la loi du retour et donc qui peuvent demander à venir en Israël et qu'on doit aller sauver. On doit aller communauté juive d'Ukraine. Pourquoi ? Parce que demain, si c'est le chaos en Ukraine, eh bien, ce sont les Juifs qui partiront en premier. Et ça, en Israël, on en est sûr. Donc, il faut absolument aller les chercher. Or, organiser cette alia de aussi importante, il faut une organisation très importante. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'organisation humanitaire, c'est un métier, et l'alia aussi, c'est un métier. Donc, quand vous avez parlé de fake news, etc., moi, je ferai une petite distinction entre les fake news qui concernent l'organisation humanitaire. Effectivement, en cas de guerre, c'est toujours très compliqué d'organiser du soutien humanitaire. Mais la fake news qui concerne l'info, alors là, je pense qu'on peut parler de fake news, bien sûr, on doit aussi parler de la censure, parce qu'il y a une très très grosse censure sur l'information, vous le savez vous-même, tous les organes de presse russes ont été interdits en Europe et aujourd'hui, on a l'information que de trois grands médias qui sont l'AFP, l'agence Reuters et l'agence AP, qui sont des organes de presse occidentaux. On a beaucoup de mal à obtenir des informations qui viennent du peuple russe, par exemple. Qu'est-ce que pense le peuple russe de ce conflit, ou du peuple ukrainien? Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus...
Le peuple russe n'est pas informé du tout sur le conflit. Hein, si on entend l'ambassadeur de Russie, c'est à hurler. Voilà. Et que le peuple russe, quand il va manifester, il peut se prendre 15 ans de prison derrière, si ce n'est pire. Donc, c'est ça que parfois on a un peu de mal à entendre, c'est que voilà, ce n'est pas une démocratie, loin de là, et on sait les risques que prennent parfois les Russes.
On va terminer, Emmanuel, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, et on continuera à en parler. Malheureusement, l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines de ce conflit qui semble durer, et j'allais dire s'éterniser. On va faire quelque chose d'un petit peu plus léger. On va partir au musée avec vous, Elsa Charbit.
Alors justement, c'est le musée qui est venu à nous, parce que vous savez, à Marseille, nous n'avons pas, pas les mêmes collections qu'au Louvre et nous n'avons certainement pas accès à la Joconde qui, de toute façon, ne voyage plus. Et l'idée est venue de créer, et c'est la deuxième fois qu'ils créent comme ça une exposition immersive, c'est-à-dire que la Joconde, qui ne voyage plus, comme je vous le disais, qui a plus de 500 ans et qu'on ne sait pas toujours très, très bien regarder d'ailleurs, et fait l'objet d'une exposition immersive au cœur même du Palais de la Bourse, qui est un des plus anciens bâtiments que nous avons ici en centre-ville. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ça a été fait par le Louvre. Évidemment, le conservateur du Louvre était là, il a dit « je suis le mari de la Joconde », mais surtout, grâce à un directeur du Grand Palais qui s'appelle Roy Amit, et dès qu'il a pris la parole, il parle un français extraordinaire, j'ai tout de suite compris qu'il était israélien. Je suis allée le voir pour qu'il nous parle de cette expo, je vous propose de l'écouter.
Et que cette nouvelle manière de faire des expositions, de raconter de nouveau cette histoire, peuvent l'apporter des nouvelles éléments. On pense vraiment que ce nouveau format s'apprête particulièrement bien à ça, dans le sens où la Joconde, même quand on va au Louvre, on passe rapidement devant. On est ébloui par la mise en scène, par les tableaux, mais on les regarde pas vraiment, pas en détail en tout cas. Et ici, avec ce système de projection en très haute définition, avec la multitude d'écrans, on a la possibilité, peut-être pour la première fois, de vraiment regarder, d'accéder, de l'observer. Et encore pas que la Joconde, mais des générations d'artistes qui ont été inspirés. En effet, je suis israélien d'origine, je vis en France depuis un moment. Je suis venu faire les études et puis après j'ai...
Vous êtes tombé sous le charme de notre beau pays.
Exactement, j'ai resté. Et dans la culture en particulier depuis pas mal d'années. Et oui, je suis sûr et certain que ce type d'expositions vont aller à Tel Aviv.
Une start-up nation ne peut qu'accepter ce genre de choses. C'est tout à fait adapté. L'idée, vous l'aurez compris, c'est d'apporter peut-être un peu de légèreté à tout ça dans ce monde de brut, de se dire aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un patrimoine culturel en Ukraine auquel il va falloir songer. On a vu dans les différentes guerres comme tout pouvait être détruit. Tout ça, évidemment, nous oblige aussi à réfléchir et ne pas oublier que la culture fait partie de nos vies. Et quand on voit, on parlait d'Israël et de la proximité avec Israël, on voit véritablement qu'Israël aussi a une place à jouer dans la culture, puisque vous le voyez, à la tête du Grand Palais pour ce genre d'exposition, on retrouve un garçon comme Roy Amit. Moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur dans ces périodes si difficiles. Bah, j'étais contente de tout cela.
Ben voilà, ça fait du bien la culture et la Joconde. Merci Elsa.
Et puis à Marseille, vous n'avez pas le Louvre, mais vous avez le Mucem et le Stade Vélodrome aussi.
Ils ont la mer surtout.
Et la mer aussi. Voilà, c'est la fin de cette semaine des rédactions. Merci à vous Sandrine Seban, merci Elsa Charbit et merci à Emmanuel Adam. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Vous écoutez RCG Midi dans un instant, vos chroniques.